Le mauvais génie, chapitre 26. Conseil de guerre. Peu de jours après, le conseil de guerre s'assembla pour juger Alcide et Frédéric. Frédéric fut amené et placé entre deux chasseurs. Il était d'une pâleur mortelle. Ses yeux étaient gonflés de larmes qu'il avait versées toute la nuit. Sa physionomie indiquait l'angoisse, la honte et la douleur. Alcide fut placé à côté de lui. Son air effronté, son regard faux et méchant, son sourire forcé, contrastaient avec l'attitude humble et triste de son compagnon. On lut les pièces nécessaires, l'acte d'accusation, les dépositions, les interrogatoires, et on appela le maréchal des logis pour déposer devant le tribunal. Il accusa très énergiquement Alcide, et il parla de Frédéric en termes très modérés.
« Mais avez-vous été touché par Bonnard ?»«
Touché pour se défendre, oui, mais pas pour attaquer. »«
Comment cela? Expliquez-vous. » »«
C'est-à-dire que lorsque Bourrel l'a appelé, il est arrivé. » Mais en chancelant, parce que le vin lui avait ôté de la solidité. Quand il a approché, je l'ai poussé. Il a voulu s'appuyer sur Bourrel, et il s'est trompé de bras et de poitrine, je suppose, car c'est sur moi qu'il a chancelé. Je l'ai encore repoussé. Il est revenu tomber sa tête sur mon épaule. Puis, le poste est accouru. On les a empoignés tous les deux. Mais il y a une différence entre pousser et s'appuyer.
C'est bien. Vous pouvez vous retirer.
Le maréchal des logis se retira en s'essuyant le front. La sueur inondait son visage. Frédéric lui jeta un regard reconnaissant. Les hommes du poste déposèrent dans le même sens sur ce qu'ils avaient pu voir. Quand les témoins furent entendus, on interrogea Alcide.
« Vous avez appelé le maréchal des logis face à claque, gros joufflu, canaille. »«
C'est la vérité, ça m'a échappé. »«
Vous l'avez poussé ?»«
Je l'ai poussé, je m'en vante. Il n'avait pas le droit de me prendre au collet. »«
Il en avait parfaitement le droit du moment que vous lui résistiez et que vous étiez ivre, mais de plus, vous lui avez donné un coup de poing. »«
Il n'était pas bien vigoureux. Je n'avais pas toute ma force. » Le vin, vous savez, cela vous casse bras et jambes.
Vous avez appelé vos camarades à votre secours, et spécialement Frédéric Bonnard. Pourquoi appeliez-vous si vous n'aviez pas l'intention de lutter contre votre maréchal des logis?
Je ne voulais pas me laisser frapper. L'uniforme français doit être respecté.
Est-ce par respect pour l'uniforme que vous frappiez votre supérieur?
Si je l'ai un peu bousculé, Bonnard en a fait autant.
Il ne s'agit pas de Bonnard, mais de vous.
Si je parle de lui, c'est que je n'ignore pas qu'on veut tout faire retomber sur moi pour excuser Bonnard.
Je vous répète qu'il n'est pas question de Bonnard dans les demandes que je vous adresse, mais de vous seul. De votre propre aveu, vous avez donné un coup de poing à votre chef. Vous l'avez traité de canaille, et vous appelez vos amis dans l'intention évidente de vous délivrer par la force. Avez-vous quelque chose à dire pour votre excuse ?
Quand j'aurais à dire, à quoi cela me servirait-il, puisque vous êtes tous décidés d'avance à me faire fusiller et à acquitter Bonnard, qui est un hypocrite, un voleur? C'est un jugement pour rire, ça!
Taisez-vous! Vous ne devez pas insulter vos juges, ni accuser un camarade. Je vous préviens que vous rendez votre affaire plus mauvaise encore.
Ça m'est bien égal si je parviens à faire condamner ce gueux de Bonnard, ce voleur, ce...
Monsieur Georgey se lève avec impétuosité et s'écrie.
J'ai demandé les paroles.
Vous aurez la parole, monsieur, quand nous en serons à la défense. Veuillez vous asseoir.
Monsieur Georgey se rassoit en disant.
J'ai demandé excuse. Ces coquines d'Alcide m'avaient mis en fureur.
Alcide se démène, montre le poing à monsieur Georgey en criant.
Reconduisez le prisonnier à son banc.
Deux soldats emmenèrent Alcide, qui se débat et qu'on parvient difficilement à calmer.
Bonnard, Bonnard, C'est avec regret que nous vous voyons sur le banc des accusés. Votre conduite a toujours été exemplaire. Dites-nous quel a été le motif de votre lutte contre votre maréchal des logis.
Mon colonel, j'ai eu le malheur de commettre une grande faute. Je me suis laissé entraîner à boire, à m'enivrer. Je me suis trouvé, je ne puis expliquer comment, dans l'état de dégradation qui m'amène devant votre justice. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre moi et mon maréchal des logis. Je me fie entièrement à lui pour vous faire connaître l'étendue de ma faute. Je l'aime, je le respecte, et depuis 15 jours j'expie, par mon repentir et par mes larmes, le malheur de lui avoir manqué.
Ne vous souvenez-vous pas d'avoir été appelé par Bourrel pour le défendre contre le maréchal des logis?
Non, mon colonel.
Vous ne vous souvenez pas d'avoir engagé une lutte contre le maréchal des logis?
Non, mon colonel.
Allez vous asseoir.
Frédéric, pâle et défait, retourne à sa place. On appelle les témoins. Ils atténuent de leur mieux la part de Frédéric dans la lutte. Les camarades d'Alcide avouent le complot imaginé par lui, les moyens de flatteries et d'hypocrisie qu'ils avaient employés, l'achat des vins et liqueurs pour enivrer plus sûrement leurs victimes. Le projet de vol, que leur propre ivresse et l'arrivée du maréchal des logis les avaient empêchés de mettre à exécution. Les interruptions et les emportements d'Alcide excitent l'indignation de l'auditoire. Après l'audition des témoins, les avocats prennent la parole. Celui d'Alcide invoque en faveur de son client l'ivresse, l'entraînement. Il promet un changement complet si les juges veulent bien user d'indulgence et lui accorder la vie. L'avocat de Frédéric rappelle ses bons précédents, son exactitude au service, sa bravoure dans les combats, les qualités qui l'ont fait aimer de ses chefs et de ses camarades. Il le recommande instamment à la bienveillance de ses chefs, tant pour lui que pour ses parents, que le déshonneur de leur fils atteindrait mortellement. Il plaide son innocence. Il prouve que Frédéric a été victime d'un complot tramé par Bourrel pour se rendre maître de l'argent que possédait Bonnard et le perdre dans l'esprit de ses chefs. Il annonce que M. Georgey, ami de Frédéric, se chargeait d'expliquer l'indigne accusation de vol lancée par Alcide Bourrel. M. Georgey monte à la tribune des avocats. Il salue l'assemblée et commence.
Honorables sœurs, je ne pouvais pas empêcher une indignation de mon cœur quand ces Alcide Malhonnête avaient accusé les pauvres Frédéric comme un voleur. Je savais tout, je voyais tout. C'était Alcide le voleur. Frédéric était une imprudente, une bonne créature. Il avait suivi les malhonnêtes amis. Il croyait vrai ami, bon ami. Il savait rien des voleries horribles de l'ami. Frédéric comprenait pas très bien quoi il voulait faire les malhonnêtes. Et quand il comprenait, quand il disait « je voulais pas », c'était trop tardivement. Alcide avait volé moi. Et Frédéric voulait pas dire « c'était lui, prenez-les pour la prison ». Et quand les bons gendarmes français avaient arrêté le malhonnête Alcide, cette gueuse avait coulé dans les poches de les pauvres Frédéric, montre, chaîne, or et tout. Quand j'étais arrivé, je comprenais, je savais. J'avais dit, pour sauver Frédéric, c'était moi qui avais donné montre, or, chaîne. Les gendarmes français avaient dit, c'était bon. Il n'y avait pas des voleurs, et j'avais emmené les deux garçons. Et j'avais foudroyé Alcide, et j'avais chassé lui. Et Frédéric était presque tout à fait morte des désolations du arrêtement des gendarmes. et les pères infortunés et les mères malheureuses étaient presque mortes de l'honneur perdu une minute. Voilà pourquoi, Frédéric, il était soldat. Et vous, avez les capacités de voir, il était bon soldat, brave soldat, soldat français dans les généreuses braves régiments 102. Et si cette scélérate Alcide avait réussi au déshonorement à la mort du pauvre Frédéric, lui contente, lui enchantée, lui heureuse. Et les pauvres Master Bonnard, Madame Bonnard, ils étaient morts ou imbéciles du grand, terrible désolation. Quoi il a fait, les pauvres accusés? Rien du tout. Maréchal Delogis disait rien du tout, seulement tombé à l'épaule du brave, honorable maréchal Delogis français. Et pourquoi Frédéric tombé sur l'épaule? Par la chose que les Gradine Alcide avaient fait ivre les malheureuses avec du vin abominable, horrible. C'était un acte de grande scélérate, donner du vin horrible. Et les pauvres malheureuses, ils étaient dans un si grand repentement, dans un si grand chagrinement. Voyez-lui pleurer. Pauvre garçon, toi pleurer pour ton honneur, pour tes malheureux parents. Toi brave comme un lion terrible, toi courageuse et forte toujours, partout. Toi à présent abattue, humiliée, honteuse. Tes pauvres yeux allumés comme les soleils en face des ennemis, tristes, abaissés, ternis. Pauvre Frédéric, rassure ton pauvre cœur. Tes chefs, ils étaient justes, ils étaient bons. Ils savaient tu étais une honneur du brave régiment. Ils savaient tu voulais pas faire mal. Ils savaient ta désolation. Eux t'ouvrirent les portes du tombeau. Eux te dirent, sors, Lazare, prends la vie et l'honneur. Tu croyais être morte à l'honneur. Nous te rendrons la vie avec l'honneur. Va combattre encore et toujours pour les gloires de notre belle France. Va gagner la croix de l'honneur. Va crier à l'ennemi, Dieu et la France.
Un murmure d'approbation se fit entendre lorsque M. Georgey descendit de la tribune. Frédéric se jeta dans ses bras. M. Georgey l'y retint quelques instants. Le conseil se retira pour délibérer sur le sort des deux accusés. L'attente ne fut pas longue. Quand il rentra dans la salle...
Frédéric Bonnard, le tribunal, usant d'indulgence à votre égard, en raison de votre excellente conduite et de vos antécédents, eut égard à votre sincère repentir, vous acquitte pleinement, à l'unanimité, et vous renvoie de la plainte.
Frédéric se leva d'un bond, tendit les bras vers le colonel. Son visage, d'une pâleur mortelle, devint pourpre et il tomba par terre comme une masse. M. Georgey s'élança vers lui. Une douzaine de personnes lui vinrent en aide et on emporta Frédéric, que la joie avait failli tuer. Il ne tarda pas à revenir à la vie. Un flot de larmes le soulagea, et il put témoigner à M. Georgey une reconnaissance d'autant plus vive qu'il avait craint de pouvoir éviter au moins 5 ans de fer ou de boulet. Quand le tumulte causé par la chute de Frédéric fut calmé, le président continua.
Alcide Bourrel. Alcide Bourrel, le tribunal ne pouvant user d'indulgence à votre égard en raison de la gravité de votre infraction à la discipline militaire et conformément à l'article 3. Du code pénal militaire, vous condamne à la dégradation suivie de la peine de mort.
Un silence solennel suivit la lecture de cette sentence. Il fut interrompu par Alcide qui s'écria en montrant le poing au tribunal.
«
Canaille, je n'ai plus rien à ménager. Je puis vous dire à tous que je vous hais, que je vous méprise, que vous êtes un tas de gueux.
Qu'on l'emmène. Condamné, vous avez 3 jours pour l'appel en révision ou pour implorer la clémence impériale.
Je ne veux en appeler à personne, je veux mourir. J'aime mieux la mort que la vie que je mènerai dans vos bagnes ou dans vos compagnies disciplinaires.
En disant ces mots, Alcide s'élança sur le maréchal des logis et, avant que celui-ci ait pu se reconnaître, il le terrassa en lui assenant des coups de poing sur le visage. Les gendarmes se précipitèrent sur Alcide et relevèrent le maréchal des logis couvert de sang. Quand le tumulte causé par cette scène fut calmé, on fit sortir Alcide. Le colonel ordonna qu'il fût mis au fer. Les officiers qui composaient le tribunal allèrent tous savoir des nouvelles de Frédéric. La scène qui suivit fut touchante. Frédéric, hors de lui, ne savait comment exprimer sa vive reconnaissance.
Remets-toi, mon brave garçon, remets-toi. Nous avons fait notre devoir, il faut que tu fasses le tien maintenant. Bientôt, sous peu de jours peut-être, nous aurons un corps d'arabe sur les bras. Bats-toi comme tu l'as fait jusqu'ici. Gagne tes galons de brigadier, puis de maréchal des logis en attendant l'épaulette et la croix.
Tout le monde se retira, laissant avec Frédéric M. Georgé, qui avait reçu force compliments et qui put se dire qu'il avait contribué à l'acquittement de son protégé. Quand M. Georgé et Frédéric apprirent la nouvelle violence d'Alcide, le premier se frotta les mains en disant
« Je savais, c'était un animal féroce, horrible. Lui tué par un fusillement. C'était très bon. »
Frédéric, inquiet de son maréchal des logis, alla savoir de ses nouvelles. Il le trouva revenu de son étourdissement et soulagé par la quantité de sang qu'il avait perdu par suite des coups de poing d'Alcide. Pendant que Frédéric était au cachot, il avait à peine touché aux provisions de M. Georgé. Il proposa à sa chambrée de s'en régaler au repas du soir.
« Mais pas de vin. Un petit verre en finissant. Voilà tout. J'ai juré de ne jamais boire, ni faire boire plus d'un verre à chaque repas. »
Les camarades applaudirent à sa résolution, et le repas du soir n'en fut que plus gai. Les provisions de M. Georgé eurent un succès prodigieux. Frédéric fut obligé de les retirer pour empêcher les accidents.
« Nous serons bien heureux de les retrouver demain, mes amis. »«
Au fait, ton acquittement vaut bien 2 jours de fête. »«
Tous les jours de ma vie seront des jours de fête et d'action de grâce au bon Dieu et à mes excellents chefs. »
Notre bon aumônier était-il content, comme il remerciait le colonel et les autres officiers qui t'ont jugé.
« Et ce gueux d'Alcide a-t-il crié, juré ? Quelle canaille !»
Prions pour lui, mes bons amis. J'ai demandé à Monsieur l'aumônier une messe pour la conversion de ce malheureux. Puisse-t-il se repentir et mourir en paix avec sa conscience ?